pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le septième dimanche. Quelques jours plus tard, il entre à Capharnaüm et on apprend qu'il est à la maison. Ils sont nombreux à se rassembler au point qu'il n'y a plus de place, pas même devant la porte. Il leur dit la parole. On vient lui apporter un paralytique porté par quatre personnes. Ne pouvant lui apporter à travers la foule, il découvre le toit au-dessus du lieu où il est. Ayant fait un trou, il laisse descendre le brancard sur lequel le paralytique est couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique,
« Fils, tes péchés sont pardonnés. »
Certains des scribes qui sont assis là font des réflexions dans leur cœur. « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul Dieu? » Alors, connaissant par son esprit les réflexions qu'ils font en eux-mêmes, Jésus leur dit,
« Pourquoi faites-vous ces réflexions dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner sur la terre, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. »
Il se dresse, prend aussitôt son brancard et sort devant tout le monde, si bien que tous sont stupéfiés et qu'ils rendent gloire à Dieu en disant,
« Jamais nous n'avons vu de telles choses. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour André.
Bonjour Georges. On peut lire ce récit comme une manifestation de puissance à la gloire de Jésus. Puissance sur les corps et puissance sur les âmes. Mais sommes-nous alors vraiment au cœur de ce qu'il veut nous dire?
Eh bien, on verra que peut-être le récit va nous dévoiler le véritable motif qui amène Jésus à guérir. Nous sommes, regardons le contexte, au second chapitre de Marc. Le chapitre premier nous a fait assister au tout début du ministère de Jésus, son baptême, la retraite au désert et les premières activités en Galilée, ces activités que Marc a inscrites dans le raccourci d'une journée autour de la petite ville de Capharnaüm. Ces activités sont essentiellement consacrées à enseigner dans les synagogues et à guérir. Et cet enseignement est donné avec autorité. De même, le pouvoir sur les esprits mauvais, et tout cela fait grandir la renommée de Jésus. On va venir de partout vers lui. Mais, avec ce second chapitre, eh bien, nous voici déjà au seuil d'un revirement. Et ce sont cinq controverses qui vont se succéder et qui vont marquer les résistances que Jésus rencontre. Controverses à propos du pardon aux paralytiques, controverses autour d'un repas pris avec des publicains, controverse autour du jeûne, controverse enfin autour de la non-observance du sabbat par les disciples et par Jésus lui-même. Et l'ensemble s'achèvera par l'amorce d'un complot, contre ce rabbi insolite et gênant.
Les pharisiens tiennent alors conseil avec les hérodiens contre lui sur les moyens de le perdre.
Le conflit semble se situer sur les diverses manières d'observer la Torah. Mais en fait, ce genre de discussion sur la manière d'actualiser les préceptes de la Torah était normal, habituel même, entre les diverses écoles juives. Alors comment comprendre que les adversaires de Jésus veulent chercher à le tuer? Il nous faudra discerner le véritable enjeu de ces controverses. Alors regardons notre texte.
Ils défont le toit, font un trou et descendent le brancard.
Pour comprendre cela, il est peut-être utile de décrire ce qu'était la maison palestinienne à l'époque de Jésus. Et nous empruntons à Frédéric Mans, dans son livre, sa description.
Le type de maison a dû se limiter au rez-de-chaussée, car les murs de pierre sèche ou collés ensemble dans la boue n'auraient jamais pu soutenir le poids d'un étage. L'archéologue Corbeau pense que le toit était fait d'un mélange de boue et de paille soutenu par des traverses de bois. Il était relativement facile d'enlever la couche de boue et de faire un trou dans le treillis de bois. De plus, la découverte de petits escaliers à paliers dans de nombreuses cours de maisons à Capharnaüm permet de se représenter l'action des porteurs à partir du toit.
Oui, en effet, ils vont être quatre pour laisser glisser les cordes par lesquelles ils soutiennent le brancard, et cela afin de déposer le paralytique juste aux pieds de Jésus. Alors, quelle va être la réaction du maître, du rabbi, qui est en train de dire la parole de Dieu ?
Jésus voyant leur foi.
Ce qui frappe avant tout Jésus, c'est la foi de ces hommes. Ils manifestent leur confiance en Dieu à travers la personne de son envoyé. Ils n'ignorent pourtant pas que cette maladie, dans la conception du temps, est liée plus ou moins au péché. La maladie était en effet considérée comme la conséquence directe de la désobéissance aux lois qui sont données par le Seigneur. Et donc la guérison va exiger l'effacement de ces causes et le retour vers le Seigneur. Ils savent donc que le malade ne pourra pas se relever de sa maladie avant qu'il n'ait retrouvé le chemin de l'amour, et cela par le pardon de sa faute. Notre paralytique a sans doute fait lui-même déjà un retour vers Dieu, dans la confiance que Dieu, son Seigneur, peut lui donner le pardon et le guérir de son mal moral. Il vient donc vers l'envoyé de Dieu, espérant que cet envoyé va lui donner la guérison physique. Et c'est ce que comprend Jésus. Et il va confirmer que Dieu lui a pardonné ses fautes. Tes péchés sont pardonnés. Eh bien, cette formule est traditionnelle. En effet, la forme du verbe est au passif pour traduire, sans le nommer, que c'est Dieu qui pardonne. Et ce passif est utilisé, en effet, pour éviter de prononcer le nom divin en signe de respect.
Comment alors comprendre la réaction des scribes ?
Oui, ils accusent Jésus de blasphémer, parce que, selon eux, il s'octroie un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Mais, à proprement parler, Jésus n'a pas dit « Je te pardonne, mais tes péchés sont pardonnés ». Et les scribes pouvaient donc fort bien comprendre « C'est Dieu qui a pardonné, c'est Dieu qui te pardonne ». Leur réaction, eh bien, elle veut peut-être dire « Qui es-tu, toi, pour prétendre affirmer au nom de Dieu que cet homme est pardonné ?» Voilà sans doute aux yeux des scribes le scandale qu'ils assimilent à un blasphème. Qui est ce rabbi pour prétendre parler au nom de Dieu, alors que normalement c'étaient les prêtres qui le faisaient au temple ?
Mais qu'est-ce que le pardon ? Et pourquoi ce pardon doit-il venir de Dieu ?
Eh bien, nous avons peut-être, nous, souvent des images du pardon qui, sans être fausses, ne sont peut-être pas très justes. Dans notre enfance, nous avons fait effectivement l'expérience du pardon. Mais quelle était cette expérience ? En effet, lorsqu'on a désobéi, menti, volé, été égoïste ou coléreux, eh bien notre père et notre mère nous ont réprimandés et punis. Et alors, si nous avons manifesté notre condition ou notre regret, ils nous ont dit que nous étions pardonnés. Et parfois, ils vont nous inviter à réparer notre faute. Remettre l'argent si on a volé, dire la vérité si on a menti. Que nous fait vivre cette séquence ? Cette séquence qui est faute, réprimande, punition, puis le pardon et la réparation. Oh, elle peut certes nous faire comprendre que le geste que nous avons posé est mauvais et que nous avons ainsi rompu l'harmonie entre nous et nos parents. Mais est-ce qu'elle peut vraiment nous faire vivre un changement profond au plan de notre cœur? Est-ce que cette séquence nous fait prendre conscience que notre faute vient de ce que nous avons en nous, un manque d'amour? Nous fait-elle percevoir que le pardon veut nous donner cette force d'amour qui va nous guérir? Ce n'est pas certain. Notre expérience du pardon se limite peut-être à celle de la punition et de la réparation de la faute qui permet que notre geste mauvais soit oublié par notre père et par notre mère. La réalité la plus profonde du pardon, ce n'est pas l'oubli, mais c'est au contraire l'amour qui nous est donné, redonné, qui nous est pardonné, au sens qu'il nous est donné parfaitement, qu'il nous est donné en plénitude. Et c'est cette plénitude de l'amour dans le pardon qui implique vraiment Dieu. Oh certes, le péché peut être un manque d'amour directement envers Dieu, refuser de prier, accuser Dieu de notre souffrance, je ne sais, mais le plus souvent nos fautes concernent surtout notre prochain. Alors, si elles impliquent notre relation à Dieu, c'est d'une manière indirecte, et cela de plusieurs façons. Elles impliquent Dieu parce que Dieu est solidaire de tous, et que le mal qui est fait à un être humain, qui est son fils, sa fille, le touche lui aussi personnellement. Nos fautes impliquent Dieu parce que notre faute nous détruit nous-mêmes et que Dieu souffre de voir son fils, sa fille se détruire. Elles impliquent Dieu enfin parce que Dieu est la source de cet amour qui peut nous pardonner. Le pardon, l'amour pardonné, doit en effet puiser à cette source de l'amour qu'est Dieu pour y trouver les forces spirituelles qui vont guérir le cœur qui est en manque d'amour. Or, dans la tradition juive, pour obtenir la guérison physique, une guérison qui est toujours envisagée en lien avec le pardon des fautes, la Torah, en effet, avait prévu le passage obligatoire par des rites de pénitence qui se faisaient au temple. À travers ces rites sacrificiels, c'était le pouvoir de Dieu qui s'exerçait. Ce pouvoir était en effet communiqué aux prêtres qui représentaient Dieu. Et les sacrifices offerts avaient pour but de réparer la faute aux yeux de Dieu, de satisfaire d'une certaine manière sa justice qui avait été bafouée par le péché. Écoutons le texte du Lévitique au chapitre 5.
Si quelqu'un pêche, il aura à confesser le péché commis. Il amènera au Seigneur Dieu, à titre de réparation, une femelle de brebis ou de chèvre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur lui le rite d'expiation qui le délivrera de son péché.
Mais en effet, une telle démarche manifeste que la relation à Dieu se vit d'abord au plan de la justice, parce qu'il faut réparer les conséquences de la faute pour mériter d'être pardonné. Eh bien, Jésus semble au contraire considérer que le pardon est accordé par Dieu gratuitement. Il est donné avant même qu'on ait réparé la faute. Le pardon est donné dans le fait qu'on a ouvert son cœur pour retrouver le lien d'amour avec Dieu. C'est dans ce retour à la communion avec Dieu que celui-ci nous redonne alors les forces spirituelles qui, elles, vont nous permettre de réparer les torts commis. Le paralytique n'a pas été au temple pour offrir le sacrifice de réparation et il n'aura pas besoin d'y aller. C'est sa confiance en Dieu miséricordieux qui lui a permis de recevoir le pardon de Dieu et Jésus confirmera cette guérison intérieure par la guérison physique. Dans le récit de Luc, nous voyons, dans un autre endroit, Jésus dire à une pécheresse « Tes péchés sont pardonnés » et aux pharisiens, qui s'étonnent de son attitude, Jésus va répondre
« Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Celui à qui peu est pardonné aime peu. »
Jésus affirme qu'on ne peut montrer de l'amour envers son prochain si l'on n'a pas d'abord puisé à la source divine de l'amour, si l'on n'a pas d'abord accueilli l'amour donné par Dieu, l'amour pardonné. Dans ces deux exemples, le pardon est accordé indépendamment des rites du temple. Alors, posons-nous la question, comment Jésus explique cela ?
Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner sur la terre.
Avant de tenter de comprendre cette phrase, demandons-nous qui est le Fils de l'homme. Il y a sans doute ici une référence au livre de la Bible, le livre de Daniel. Daniel y décrit un Fils d'homme venant sur les nuées du ciel. C'est au chapitre 7.
Il s'avança jusqu'à l'Ancien des Jours et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré pouvoir, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son pouvoir est pouvoir à jamais, qui ne passera pas.
Eh bien, on retrouve trois fois ici le mot « pouvoir » dans ces quelques lignes. Et c'est aussi celui qu'utilise Jésus dans le passage que nous regardons aujourd'hui. Dans la Bible, dans les récits évangéliques, on trouve 69 fois cette référence au titre de fils de l'homme. Relevons quelques passages.
Et Jésus dit au grand prêtre qui lui demande s'il est le Messie, « Je le suis, et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon sa conduite. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur le trône de sa gloire pour juger les gens de toutes les nations. Comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme.
Dans ces exemples, on voit que le Fils de l'homme fait clairement référence au livre de Daniel pour décrire son rôle au-delà de la mort, dans la gloire divine. C'est en effet alors qu'il prononcera le jugement dernier au nom de Dieu son Père. Mais, sur terre, le Fils de l'homme vient aussi au nom de Dieu, mais cette fois non pas pour juger, encore moins pour punir, mais pour pardonner, pour faire grâce, pour sauver.
Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Le pouvoir de pardonner qui vient de Dieu, pouvoir de pardonner comme source de l'amour, passe par Jésus. Et cela parce que cet humain qu'est Jésus est le Fils en qui l'amour de Dieu est accueilli en plénitude. La voix de Dieu avait déjà confirmé cela lors du baptême.
« Tu es mon Fils unique et bien-aimé. En toi, mon amour est parfaitement accompli. »
Celui qui vit parfaitement de l'amour de Dieu, c'est celui-là qui est capable de communiquer le pardon d'amour, de communiquer cette force divine qui veut sauver celui qui s'est fermé à l'amour par sa faute, qui veut faire vivre et revivre celui qui était par son péché comme mort spirituellement. La première lettre de Jean décrit ce rôle de Jésus.
En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Eh bien, ce pouvoir de communiquer le pardon, Jésus ressuscité le partage à ses disciples en leur communiquant la puissance de son esprit.
Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il insuffle en eux et leur dit, « Recevez le souffle spirituel saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Plus tard, l'apôtre Paul dira que nous, disciples de Jésus, nous avons reçu le ministère de la réconciliation.
Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui-même, mettant en nous la parole de réconciliation.
À tous ceux qui sont les membres de son corps, Jésus, le Fils de l'homme, confie le pardon de Dieu. Et ils auront à le communiquer à leurs frères et à leurs sœurs, et cela par l'amour gratuitement donné, redonné, pardonné. Voilà, on pourrait dire, un des rôles clés de toute communauté chrétienne. Si la communauté chrétienne peut célébrer le signe de la réconciliation, c'est parce qu'elle est dépositaire de cet amour divin que le Fils de l'homme lui transmet et lui confie. Chacun des membres de cette communauté a une responsabilité dans ce don du pardon. Chacun, chacune en est responsable pour chacun et chacune. Ceux à qui vous pardonnez, ils sont pardonnés. C'est-à-dire, ceux que vous aimez de tout l'amour qui vient de Dieu, ceux-là sont remis dans l'amour. Remarquons bien, le récit d'aujourd'hui ne dit pas Jésus voyant la foi du paralytique, mais voyant leur foi. Les quatre porteurs sont solidaires du paralytique et de la conversion de son cœur. N'est-ce pas aussi cette dimension communautaire que nous signale le récit de Matthieu, le récit qui est parallèle au nôtre. En effet, ce récit va se terminer par cette affirmation.
Les foules rendaient gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes.
Oui, le pouvoir du Fils de l'homme est communiqué à tous ceux qui forment son corps. Déjà dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme communique son pouvoir à tous les saints du Très-Haut.
Quant à la royauté, le pouvoir et la grandeur de tous, de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut.
Eh bien, il en est de même pour la communauté qui est réunie dans le Christ Jésus, comme ne cesse de le redire Paul aux chrétiens des églises qu'il a fondées.
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.
Oui, nous sommes, depuis Jésus, dans le temps de la grâce et de la réconciliation. C'est le message qu'il a donné dans la synagogue de Nazareth et qui résume toute sa mission.
Tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles sur la grâce qui sortaient de sa bouche.
La première prière eucharistique pour la réconciliation, que l'on dit souvent dans des messes, dit la même chose.
Maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint.
Je recueille du père André Patry, qui est aumônier d'un centre de détention, un petit exemple concret de cette responsabilité de tout disciple de Jésus dans le pardon.
Quand il était enfant, Michel avait été gardé en retenue à l'école par une religieuse. Le lendemain, quand il est arrivé à l'école, il avait des bleus sur le corps. La religieuse lui a demandé pourquoi. Il a répondu que sa mère l'avait battu parce qu'il avait été gardé en retenue. La religieuse, bouleversée, l'a serré sur elle en pleurant, tout en lui disant « Michel, Dieu t'aime ». Michel m'a avoué qu'il avait alors senti la tendresse d'une femme pour la première fois de sa vie. À travers le visage de cette femme, il a vu le visage de Dieu.
Oui, et le père Patry ajoute, nous avons donc une responsabilité de rendre visible l'amour de Dieu à travers notre propre amour pour les personnes qui nous entourent. Dans ce qui fait suite à notre passage, Jésus va poser deux gestes en accord avec sa vision du pécheur.
En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit.
Les employés de la douane, qu'on appelait les publicains, étaient considérés en effet comme des pécheurs publics. Non seulement ils côtoyaient les Romains, qui sont des païens et donc ils se rendaient ainsi impurs, mais ils étaient aussi perçus comme des voleurs parce qu'ils imposaient des taxes trop lourdes aux gens et mettaient le surplus dans leur poche. Eh bien, parmi ses apôtres, parmi ses envoyés, Jésus ne craint pas de choisir ce pécheur. Sans doute ce Lévi, qu'on appelle Matthieu par ailleurs, aura-t-il une grande compassion pour les pécheurs parce qu'il se verra solidaire d'eux puisqu'il est l'un d'entre eux. Et cet appel se poursuit par un repas.
Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, dirent à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. »
Quand on sait l'importance de la communauté de table pour les gens de la Bible, on saisit le scandale que la conduite de Jésus pouvait provoquer chez ceux qui s'estimaient justes et corrects. En effet, la table est un autel et le repas est un sacrifice où Dieu unit les convives. Partager le pain et le sel avec quelqu'un est un pacte sacré d'amitié. Pour ceux qui considèrent que le péché ne peut être pardonné que par l'expiation et le châtiment, manger avec les pécheurs, c'était pactiser avec eux. Alors que pour Jésus, si le péché est certes une terrible pauvreté, pour lui ce n'est que l'amour porté au pécheur qui peut le sauver. Pour lui, le pardon n'est pas le dernier acte d'un processus de pénitence et de réparation, il est déjà présent dès que le pécheur s'ouvre à l'amour. L'aventure du publicain Saché traduira très bien cela. Jésus s'invite à sa table sans lui demander au préalable de changer sa vie. Mais en acceptant cette invitation de Jésus, Saché est entré dans un processus de réconciliation. La démarche de pardon va ensuite s'exprimer en aveu, puis en désir de réparer les torts.
Ce que voyant, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Nous retrouvons ici l'attitude fondamentale de Jésus, qui est cette solidarité aimante et compatissante qui fait de lui la source de la guérison de notre pauvreté d'amour. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, traduira la solidarité de Jésus en des termes très forts.
Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu.
Il l'a fait péché pour nous. La parole que Jésus ne cessera de dire aux foules, c'est cette bonne nouvelle, cet évangile de la proximité du pardon qui libère et redonne vie. En lui, Jésus, le pardon de Dieu se fait proche parce qu'il s'est fait solidaire de tout pécheur. Le geste de Jésus envers le paralytique n'en est donc pas un, d'abord de manifestation de sa puissance, ce qui conduit Jésus à attester le pardon par la guérison physique du malade, c'est d'abord son amour et sa solidarité. Et cette solidarité révèle l'incroyable amour du Dieu créateur du ciel et de la terre, un amour fait de tendresse et de compassion.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse du site et nous vous donnerons également les tarifs si vous voulez vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Thank you.